pour la démarrer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir bravé la pluie pour venir nous rejoindre sous le Magic Mirror 3, une des nouveautés d'ailleurs de ce salon des Imaginales 2017. On va s'intéresser à un sujet autour du voyage initiatique et de l'adolescence, parce qu'on verra que les deux se recoupent et se complètent parfaitement à travers les expériences de nos auteurs présents. Et vous allez voir qu'on a une table assez intéressante, assez diversifiée, à la fois dans les genres qui ont été choisis, dans les histoires qui sont racontées, dans les personnages que l'on va découvrir. Je suis très content d'accueillir Scott Lynch aux Imaginales. C'est vraiment... c'est une série que je vous conseille, les Salauds Gentilhommes, si vous n'avez pas encore découvert, avec les aventures de Locke Lamora, qui est justement, quand on le rencontre, en tout cas, on peut peut-être un petit peu plus âgé qu'adolescent véritablement, enfin ça peut-être vous allez me contredire, mais en tout cas, dans le premier temps, on va le découvrir depuis son enfance, jusqu'à l'époque où se déroule l'intrigue principale. Et on le voit également à travers les différents interludes qui ponctuent l'histoire, à se former finalement à son métier un petit peu particulier, qui est celui de voleur. Comment avez-vous construit finalement cette première aventure qui permet à la fois de découvrir le personnage et puis finalement de le voir évoluer et d'en faire un roman d'apprentissage?
And exactly as said,
Dragon,
yes. And also,
my English too.
Everyone's English is better than my French. I learned this. It used to be American, and it's 20 options, and people understand. It is, I think, exactly as you said, creating that context. We can block sports, but
please speak.
It's an uncapped Native American, it's the worst sort. In the last particular case, I felt that it was necessary, above and beyond desirable, to provide the contrast of his childhood and the alleged innocence, the alleged ideal, with the intense criminality of what he was doing. I wanted to show childhood in a world that essentially doesn't have childhood, as we understand it. There's no break in Locke's world before toil, before adulthood, before danger, whether or not you're a criminal. And it just fell into place like that. He didn't seem complete to me if we didn't meet him at a formative age.
Alors, en fait, vous avez tout à fait raison. Il fallait vraiment ce contraste dans le cas de Locke. C'était vraiment nécessaire de voir son enfance. On suppose que l'enfance, c'est l'innocence. Et en fait, là, pas du tout. C'est un monde où l'enfance n'existe pas réellement, où on ne peut pas reprendre son souffle avant le danger. Et d'ailleurs, on fait face au danger, qu'on soit un criminel ou pas. Et donc, Locke, lui, est un criminel dès sa plus tendre enfance. Et je trouvais que le personnage n'était pas complet si on ne voyait pas une partie de son enfance.
Alors, on verra que c'est un criminel, en plus, un peu particulier. Mais ça, on y reviendra au fur et à mesure, hein, puisqu'on verra qu'il y a des codes. Et que lui, justement, ne respecte pas ses codes, ce qui est aussi intéressant dans la manière dont on peut envisager le voyage initiatique et l'apprentissage. Pierre Bordage, caché derrière le pilier, je suis désolé pour certains moments.
Ah, j'ai pas vu de l'assistance que je ne vois pas, parce que les nuits, là, ça se dit mal.
Voilà. Pierre Bordage qui revient à la fantaisie. C'est quand même une des grandes informations qui revient.
C'est bien.
Ouais, l'enjeu mineur, c'était déjà un peu de la fantaisie.
Oui, c'était de la fantaisie, mais avec un prétexte historique qui était bien demandé pendant la Révolution. Là, c'est sans prétexte historique, c'est de la fantaisie pure.
Comment c'est venu cette idée?
Elle est venue depuis très longtemps et je n'avais pas encore trouvé le temps de la réaliser. Et là, ça s'est fait là, récemment. L'opportunité, c'est de faire la pensée au bien. Peut-être que j'avais peur, simplement aussi. voilà, c'est une vision de circonstances et de.
Ça s'appelle Arcane pour ce qui sera un diptyque, c'est ça?
J'espère. C'est là, je ne sais pas s'il y a d'autres choses de Diabraton. Enfin, tu tiens un Diabraton.
Ah, donc ça sera peut-être éventuellement. C'est ce qu'on appelle une javorskisation, c'est ça? C'est, c'est un projet en deux tomes qui a fait
une écriture en train de faire un peu plus loin. Mais bon, j'espère quand même faire tenir un tome 2.
Très bien. Donc Arcane, c'est le nom du cycle. Le premier tome s'appelle La Désolation, qui est un programme déjà.
Ça sent l'optimisme.
Voilà, on est déjà bien dans le décor. Qu'est-ce que c'est Arcane?
Arcane, c'est une ville et un pays, en fait. C'est le pays d'Arcane et la ville d'Arcane, la cité. C'est une cité verticale, gigantesque, établie sur 7 niveaux. Alors, j'ai compté le jour où il y en avait 6, donc je ne sais pas que c'est le 7e, mais je suis en train d'essayer de la retrouver. Chacun des niveaux séparés par un labyrinthe, qui s'appelle le Laz, qui est inexplicable, absolument, qui est de nature magique, je pense. On va suivre un personnage qui est Tardéo d'Arcane, qui sont les familles gouvernantes, leur société en quelque sorte. Et dont la famille va être complètement détruite, une des familles régnantes. Et cette jeune femme va se mettre en quête pour essayer de retrouver son frère qui a été banni des années auparavant dans les fonds d'Arcane. On ne sait pas très bien ce qui se passe, c'est une sorte de bagne des profondeurs, qui est très important pour la cité, comme on découvrira ensuite pourquoi. Et elle va devoir descendre tous les niveaux les uns après les autres, en passant à chaque fois le Laz, le labyrinthe, sachant qu'elle est pourchassée par tout le monde, et qu'elle va, pour passer inaperçue, elle va s'injecter une maladie elle-même, légèrement, qui s'appelle la nécrose, et qui va complètement altérer sa beauté. Donc ça c'est le premier personnage, et un deuxième personnage qui lui est un apprenti, qui est dans le massif de l'Ostian, qui est loin d'un arcane, on situe à l'autre extrémité du fleuve.
Il n'est pas apprenti en n'importe quoi. Non.
Mais oui, il est apprenti en chanteur de pierre. Ça, c'est une sorte de tailleur de pierre original, quoi, qui son apprentissage est de sculpter la pierre par la pensée. Mais lui, c'est un débutant, donc il fait pas mal d'erreurs. Et un jour, un guerrier arrive dans l'atelier où il travaille et il lui dit il faut absolument que tu me guides vers la cité d'Arcane, puisque. Il y a une armée qui vient, qui va complètement détruire, submerger le pays. Donc c'est pour prévenir les dirigeants d'Arcane que cette armée arrive bientôt. Et donc on va suivre son chemin avec le guerrier qui s'appelle Auric, l'apprenti en château de personne de l'arène. Et ces deux personnages vont suivre le fleuve Odifir, pour aller jusqu'à Arcane, donc la pierre s'est arrêtée. Mais on va se rendre compte que ce garçon fait l'objet d'attaques bizarres, un peu inexpliquées.
Alors sur Rennes, je vais faire un petit teasing, mais... On aurait une table ronde ensemble sur le destin. Ouais. Je pense qu'il sera intéressant de reparler de Rennes à ce moment-là parce qu'effectivement, il sera plus là-dedans. Mais on va voir aussi que son personnage, lui, évolue pour le coup, puisqu'on est dans la quête initiative,
bien sûr.
Et qu'il apprend à se découvrir, véritablement.
Il apprend à découvrir qui il est, oui. Et il est aussi confronté à la violence parce qu'avec ce guerrier qui s'appelle Auric, qui est vraiment le guerrier type. Il se demande si le fait de toucher une arme ou de tuer peut endommager son don, enfin son travail d'enchanteur de pierre. Donc voilà, il y a aussi cette espèce d'évolution intérieure en lui, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de son vrai rôle et le pourquoi de sa présence dans cette aventure-là.
Ménès Murphy, je qui ai des micros encore si vous avez besoin. Ménias Marfil, on part avec vous du côté alors de Madagascar, en tout cas pour le point de départ de l'aventure de Lemuria. On va voir qu'après on va partir dans des sphères un peu différentes où vous nous emmenez à la suite de deux adolescents. Quel point de départ de Lemuria, justement, parce que c'est assez particulier quand même ce qui leur arrive à ce garçon et à cette fille.
Ouais, oui, c'est un peu particulier. Il y a plusieurs points de départ. Bon, bien, celui que vous venez de citer, c'est déjà Madagascar. En premier moment, ça voulait déjà Abracadabascar, c'est-à-dire que j'ai un référentiel sous les yeux une grande partie de l'année. Donc, voilà,
ça. Est-ce que vous venez là-bas?
Autant que faire ce point, j'essaie de suivre la chaleur.
Bienvenue à l'épinal.
L'été, ben voilà, l'épinal m'a un peu piégé cette année. On va dire. Voilà. Le point de départ, effectivement, bon, c'est lui, une particulière. sens où elle a toujours été un peu hors du temps. Hein. Le grand mystère de cette île aussi sont les cas particuliers, les plantes sont endémiques, les animaux. On ne sait pas pourquoi, puisqu'en face il y a l'Afrique et de l'autre côté on a l'Inde, et toutes les espèces se sont spécialisées. Et moi, l'idée que j'avais à travers ça, c'était que ça en faisait, puisqu'un pays différent, ça en faisait une dimension particulière. C'est comme si certaines choses à un moment c'était un peu pas arrêtées, figées quelque part dans des strates qui sont. Donc, le point de départ pour moi, c'est toujours un peu l'initiation, parce que ça fait partie des pays où on respecte encore. Si on est malade, on ne va pas souvent voir un médecin là-bas, parce que d'abord, il y en a très peu, on va voir un sorcier, si on, etc. Il y a encore. C'est, à proprement parler, c'est vraiment un univers de magie, au sens pour anglais.
La rencontre, si on peut dire d'une certaine manière, ce sont donc deux élèves qui sont contactés, je ne sais pas si le mot est très juste. Et ils ont. Voilà, on vient les tirer par les pieds pratiquement.
Ça commence comme ça, puisque c'est une jeune fille qui est avant. Elle se trouve en salle de classe et elle a la sensation que des mains sortent du sol et ils veulent la tirer vers les profondeurs de la terre. Mais à la fois, c'est pas une scène d'épouvante, parce qu'elle sent que, bien évidemment, elle inquiète par rapport au danger que ça pourrait représenter, mais elle sent quand même qu'il y a une certaine douceur, une certaine bienveillance quand même. Donc elle n'a pas peur, et puis elle découvre que son cousin, qui lui vit sur une île différente, il lui est arrivé exactement la même chose. Et c'est donc la manifestation difficile de dire des esprits, mais ce sont des êtres qui s'appelaient dans une ère beaucoup plus lointaine, j'y reviendrai parce que c'est pas quelque chose que j'invente, je puise dans des vieilles traditions, qui s'appelaient les lémures, et là ils prennent l'apparence, dans les lémuriens, ils prennent l'apparence de lémuriens parce que c'est un animal sympathique, disant, voilà, c'est pour pas les effrayer, ils vont prendre cette apparence-là. Mais en réalité, ils vivent dans une autre dimension, on ne change pas de planète, c'est toujours la planète Terre, mais on est dans une autre strate de tonalité, on va dire. Et c'est ce qu'ils vont découvrir, cette nouvelle réalité cachée.
Vous allez voir qu'on va beaucoup réagir dans cette table, puisque nous sommes partis de Camor, nous avons été à Arcane, maintenant Madagascar, et puis là on va partir au Liban. Et puis si on va voir, le roman s'appelle Mon futur en replay. Alors là on est dans du fantastique, on joue avec le temps et l'espace d'une certaine manière. Qui est Salomé ?
Alors, Salomé, c'est une jeune fille, moi j'ai voulu, en fait, c'est donc elle est à l'aube de l'âge adulte pour le coup, et c'est un voyage dans tous les possibles de sa vie. Donc c'est une jeune fille très très résistante, mais pathologiquement résistante, qui le sait, qui joue avec, et qui n'est pas d'une autonomie territoriale, c'est-à-dire qu'elle est encore très liée à ses parents.
Ce qui est paradoxal, parce que finalement elle a quand même presque été abandonnée d'une certaine manière.
Voilà, ses parents, du jour au lendemain, sa mère tombe en amoureux, son père va retrouver sa mère à lui au Liban, et elle se retrouve toute seule, sauf qu'elle a des copains, et qu'elle va s'entourer de ses copains. Mais, voilà, et en fait, son père lui propose d'aller au Liban, sa mère lui dit que ça ne va pas la tête jusque là. La pire chose qui pouvait lui arriver, de choisir entre son père et sa mère. Et en fait, elle a une très bonne amie qui a été. Geek et qui va lui dégoter le logiciel qu'il fallait pas pour elle, qui est un logiciel qui va lui permettre de voir les futurs possibles. Elle pense, elle, que c'est n'importe quoi, que ça va pas marcher, que c'est pas. On est vraiment, pour le coup, ici dans un quotidien très important, dans du réalisme, des aujourd'hui et tout ça. Elle essaye quand même, ça marche pas. Effectivement. Sauf qu'à partir de là, en fait, elle va continuer sa vie et avoir des flashs.
Ça marche trop bien.
Avoir des flashs de qu'est-ce qui se passe si elle part au Liban. Qu'elle ne va pas maîtriser du tout et qui vont prendre de plus en plus de place dans sa vie. Elle va faire une rencontre au Liban. Enfin voilà, après, je ne vais pas tout raconter, mais.
Mais on va voir effectivement au fur et à mesure qu'elle va devoir. À partir des informations qui lui sont données, qui sont assez parcellaires en plus, hein, mais elle va devoir faire des choix, tout simplement.
Voilà, et d'autant plus qu'elle va rencontrer dans la vraie vie quelqu'un qu'elle a vu au Liban. Et à ce moment-là, quand les deux vies vont commencer à se rencontrer, ça va commencer à être très très compliqué pour moi.
Ça, Clinch, je disais tout à l'heure que vos voleurs,
avec la mort, et en particulier ceux qui se font appeler les sages gentilshommes, ont cette particularité qu'ils ont choisi, alors que, a priori, de notre regard à nous, lecteurs, ils sont déjà en marge de la société, puisqu'ils sont voleurs, ils ont quand même choisi d'être encore plus en marge d'une certaine manière, puisqu'ils vont violer les règlements, la paix sociale en vigueur.
Yes, partly that was useful for the story. It gets us right in taking, gets them into trouble, and provides them with an excuse to make their lives difficult and complicated. And I apologize for my shyness behind the microphone and my strange affect. I'm actually just a puppet operated by Helen, like a gigantic puppet. I have to rely on you to transcribe this accurately now, don't I? I really enjoy how I saw her for, you know, several minutes, and she scribes maybe two lines. She's very good.
Chaque année, tu te fais martyriser par les auteurs. C'est fou, hein?
When you, many fantasies feature characters of extraordinary abilities, boundary-breaking abilities, whether it is extraordinary heroism, whether it is extraordinary physical strength, extraordinary endurance. And one of the boundaries that thieves as characters transgress are those boundaries of behavior that find us as civilized human beings. I have not actually killed a great many people. I have not actually run, you know, money laundering rings out of the back of the mall. I have not actually been a con artist in my life. But I don't mind fantasizing about that. I don't mind even in video games. And so that at least allow for social transgression that matches the physical transgression of heroism with more traditional characters.
Donc oui, effectivement, alors ça a été très utile cet aspect-là dans mon histoire, parce que comme ça, les personnages ont des soucis, ça donne des excuses pour leur mener la vie très dure. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu timide derrière le micro. En fait, je ne suis qu'une marionnette qui est complètement manipulée par Hélène, mon interprète. Et maintenant, il faut que je fasse confiance pour se regarder ça correctement, je ne raconte pas. Et j'adore parce que je parle pendant 7 minutes, elle écrit genre 2 lignes et elle s'en sort. Trop bien. Donc, voilà, dans la fantasy, on étudie souvent des personnages qui vont casser les règles. Soit ce sont des héros qui ont un courage bien plus important que les autres, soit ils sont plus forts que les autres. Et pour les voleurs, c'est une question de comportement. Alors, personnellement, je n'ai jamais blanchi de l'argent au fin fond de Camor. Je n'ai jamais essayé de piéger les gens pour leur soutirer de l'argent. Mais ça ne me dérange absolument pas d'en rêver. J'aime beaucoup être un voleur dans les jeux vidéo, par exemple. Et ça nous permet justement de transgresser toutes les règles sociales qui existent, contrairement à certains personnages plus traditionnels.
This part will be short. Well, relatively short. And one of the aspects of the Lost World is essentially the mishmash combination of roughly Renaissance era France in the Mediterranean world. There is no social mobility, there is no social justice, there are harsh social strata into which you are born, and your chance to rise very well is extremely limited. And this is one of the ironies of setting like that, that only those who are outside the system, only those who are criminals actually have a certain degree of personal freedom. And certainly, if you have that personal freedom,
alors effectivement, en fait, le monde que j'ai inventé là, c'est un espèce de mélange à l'époque de la Renaissance, de la France, de l'Italie, la Grèce, au XVe siècle. C'est un monde où il n'y a aucune mobilité sociale, pas vraiment de justice sociale non plus, c'est-à-dire que chacun naît dans un certain niveau de la société et très peu peuvent monter l'échelle sociale. Et justement, l'ironie, c'est que seuls ceux qui sont à l'extérieur de ce système peuvent avoir un minimum de liberté comme
c'est aussi parce que, en gros, on a le droit de voler, mais on n'a pas le droit de voler les riches, quoi.
And the rich really enjoy that. I mean, they appreciate that. So, I mean, the rich in every age guard themselves to the disadvantage of everyone who is not them. The right people, the ones that are more in their situation, not taking the deal would be rather foolish. It's the noose otherwise. It's the noose regardless in many instances, but there'd be a lot more hanging if everyone wanted to be cooperative. I guess you could call it a Renaissance fantasy hero conspiracy that everyone around you is inspiring. And getting together to
Alors oui, effectivement, et en général, les riches apprécient. Hein. J'ai déjà remarqué que d'ailleurs, dans tous les mondes, à tous les âges, les riches se débrouillent pour se protéger des autres. Et effectivement, pour les criminels de Camor, ce serait un peu stupide de leur part de refuser cet accord tacite, puisque sinon, ils finissent pendus, en fait. Bon, il y a déjà certains qui finissent pendus, mais s'ils refusaient cette fameuse paix, là, ils finiraient tous pendus. Du coup, ils sont obligés d'accepter ça. Et en fait, c'est un monde où c'est une espèce de théorie du complot généralisée où tout le monde a décidé que oui, on va rendre le monde encore pire.
L'abordage avec Scott Lynch, on parle d'une société où il n'y a pas vraiment de mobilité, c'est aussi un peu le cas d'Arkham.
Oui, oui,
les familles dominent un peu au sommet, et puis plus on descend.
Oui, là, c'est symbolisé par les niveaux. Je me suis passé sur les lois de Manu pour bâtir ce monde, et le Manu en Inde, c'est ce qui a donné les castes. Là, c'est classé les gens par catégorie, les bâtiments entre eux, il y a très peu de mouvements intercastes en Inde. Hein, les derniers sont les Dalits, sont les intouchables. Et là, c'est pareil pour Arkane. Effectivement, il y a des couches différentes, il y a les classes dirigeantes, les classes laborieuses, les classes commerçantes, etc. Chaque niveau représente une fonction dans la société.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas. On a souvent l'habitude avec les héros de fantasy d'avoir souvent des ascensions. Là, c'est plutôt une histoire de déchéance.
Oui, c'est ça. C'est ça que s'appelle la désolation, d'ailleurs. C'est très désolant. Le monde est bâti sur un équilibre entre les sept familles régnantes. Mais ce monde est devenu complètement déséquilibré. C'est-à-dire qu'il a perdu l'essence de ce qu'il était, il a été dévoyé, et c'est cette déséquilibre qui crée le trouble et la potentielle destruction totale de la cité.
Ça passe par l'éradication d'une famille à laquelle appartient l'héroïne Olivier Rosia. Et justement, alors, puisqu'on est sur le thème du voyage initiatique, on l'a dit, elle va partir rechercher son frère. Mais surtout, voilà, elle va découvrir ce monde dont elle ignore tout.
Oui, absolument.
Puisqu'elle a vécu dans un cocon.
Oui, oui. Et ça va être plutôt douloureux pour elle qu'à cause de sa déformation, de sa maladie, elle devient une maudite, quelque part. Donc, elle est en danger en permanence. D'une part, elle se protège pour ne pas être reconnue avec cette maladie qui la déforme, mais d'autre part, elle est aussi à la merci de n'importe quel homme qu'elle rencontre ou personne qu'elle rencontre dans les niveaux, parce que les nécrosés sont des gens très mépris, en fait. Donc elle va vivre cette espèce de mépris, alors qu'elle survécue dans l'opulence et dans le sentiment de supériorité de son milieu, elle va être obligée de descendre en elle-même. C'est la descente d'Arkane, c'est cette descente en elle-même, surtout.
Ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, évidemment. On va vous laisser découvrir l'évolution de ce personnage parce qu'il évolue nettement.
Il est obligé, hein. Jusqu'au fait, il est obligé à évoluer. J'aime bien les foutre dans la merde aussi, mes personnages. C'est vrai que ça, c'est mon côté sadique.
Ce qui est intéressant, voilà, c'est aussi qu'elle va faire la connaissance de personnages qu'elle aurait finalement, dans sa vie d'avant, ignoré, peut-être méprisé. Et qui, elle va découvrir aussi ce qu'est la solidarité par moment, parce qu'il n'y a pas que l'adversité dans cette descente aux enfers.
Il y a une rencontre avec des comédiens qui je trouvais très intéressante. Oui, elle est obligée de s'adapter en permanence, donc de passer tous les codes de son monde. Et c'est ça qui a l'intérêt. Pour moi, c'était vraiment aller à la rencontre de soi-même pour se débarrasser des conditionnements qu'on a depuis l'enfance sur telle et telle.
Là, pour le coup, on est vraiment dans le sujet du voyage.
personnage initiatique,
c'est que... On est de Bourrel et pour Osiris.
On se dépouille, on se dépouille, on se reconstruit différemment.
Absolument. Et pour elle, c'est la même chose. Les deux sont un voyage initiatique parce que c'est à fond à se découvrir soi-même. Et là, elle est guidée par l'instant par une sorte de petit dragon qui s'appelle le Drac, parce que sa famille, c'est la famille du Drac. Et donc, ce petit dragon qui lui sert de mentor, sans jamais dire un mot, hein, mais sous son comportement, qui lui montre des chemins à suivre. Et. Je ne vais pas trop m'en parler parce que ça va dévoiler un peu l'intrigue dans le genre derrière en fait. Dans un acteur, dans un petit dragon qui apparaît, qui donne des voies à suivre. Mais c'est très dangereux parce que si elle se laisse emporter par son orgueil, qui était aussi sa condition première, et bien le feu du dragon peut la détruire un peu au moment. Donc il faut qu'elle manipule ça avec beaucoup de précaution.
Mounias Marfi, on était tout à l'heure à Madagascar avec vous, mais on va quitter l'île, on l'a dit, pour partir. Rien d'ailleurs, alors là je vais peut-être vous laisser la parole pour vous les expliquer un petit peu où vont partir vos personnages, parce que là aussi on parle, je crois qu'il y a un terme, c'est Azuman, c'est ça?
Azuman, si c'est pas un terme que j'ai inventé, c'est un véritable mot malgache qui désigne à la fois l'arbre, sous-entendu l'arbre primordial, ou le tissu tout à la forêt. Et c'est un truc qui était utilisé d'ailleurs, c'est le nom aussi de l'arbre royal du premier grand roi malgache en réalité. Voilà, et moi je m'en suis servi pour en faire une espèce de budget de mes fameux lémuriens. Alors oui, effectivement, on n'est plus... Ce qu'ils vont leur proposer, c'est là que commence un peu leur voyage initiatique, c'est de comment passer... dans cette autre dimension, parce que je précise toujours qu'on ne quitte pas la planète. Alors, c'est bon, dans ce sens de l'initiation, moi je suis parti de vieilles traditions, où notamment l'ésotérique chez les Rosicruciens ou les Rose-Croix, où notre monde est une succession d'ères. C'est-à-dire que, en considérant que nous sommes, il y a 7 ères principales, il y en a 2 qui ne sont pas encore arrivées. Nous, nous représentons la 5e ère, nous sommes les Ariens. Juste avant nous, il y a eu les Atlantes, et avant les Atlantes, il y a eu les Lémuriens. Auparavant, il y aurait eu les Hyperboréens, et puis les Polaires. Là, on est dans des grandes ères à la fois géologiques, de formation de la planète, et l'objectif premier de mes deux jeunes héros va être d'essayer d'entrer, parce qu'ils partent d'un constat que la planète aujourd'hui est dans un sale état,
les humains
ont tellement maltraité la planète qu'on ne sait plus comment faire. Mais pourquoi elle se retrouve aussi dans cet état? C'est parce que c'est d'abord un état d'esprit qui a présidé à ça. Et cet état d'esprit, pour les Lémuriens, il est ancré dans le passé. Donc ce qu'ils vont leur proposer, c'est un voyage non seulement interdimensionnel, mais dans une ère, évidemment, géologique qui est passée. Et notamment chez les Atlantes, puisque dans cette histoire-là, ce seraient les Atlantes qui auraient amené une civilisation tellement avancée, mais peut-être un peu sans limite, et c'est eux qui ont commencé à faire les premières erreurs de dégradation, et notamment l'invention de la guerre. Ce qu'ils vont leur proposer, c'est une formation et de retourner dans cet Atlantia. On quitte un peu la Lémuria pour aller dans l'Atlantia, chez les Atlantes, pour essayer d'enrayer cette erreur.
Et d'apprendre peut-être ne pas commettre les mêmes erreurs.
Et bien évidemment, si on arrive à l'enrayer, de développer un état d'esprit qui permettrait d'éviter les guerres futures.
Lucie, revoir. C'est Louis, pourquoi je l'appelle Lucie? Ça va pas bien. C'est qu'il est déjà le deuxième jour. Votre personnage de Salomé donc ces flashs. On peut dire que ce sont des prémonitions, ou est-ce que le terme n'est pas forcément très juste?
Pour moi, c'est des espèces de vrais voyages. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'elle voit, c'est des choses qu'elle vit. Pour de vrai. C'est là où vous parliez de cocon. Et en fait, ça va être ça, l'arche de Salomé, c'est qu'elle elle finalement, elle n'a pas grande décision à prendre. Elle s'en est protégée, quand c'est pas ses parents qui décident pour elle, c'est ses copains qui la guident, et que tout d'un coup, elle se retrouve à la veille d'un moment où il faut qu'elle décide quelque chose, et que tout d'un coup, ce logiciel va lui donner l'impression de pouvoir maîtriser quelque chose. Et elle va en fait se perdre dans ce désir de maîtrise de sa vie, à force de trop vouloir tout décider, elle risque sa vie, en fait.
Il y a un élément qui, d'un seul coup, alors, vous allez me dire que c'est pas aussi évident que ça, mais pour le lecteur que je suis, on a l'impression que d'un seul coup, elle est rattrapée par sa double culture, par cette filiation franco-libanaise, qui apparemment jusque-là n'était pas tellement marquée, mais qui d'un seul coup fait irruption dans son existence, et c'est aussi ça qui chamboule tout.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui était... Donc elle a un papa libanais, une maman française, elle a toujours vécu en France, avec des vacances au Liban, mais c'était quelque chose qui était vécu presque de loin. Et tout d'un coup, le fait que son père retourne au Liban, chez sa mère à lui, elle fait des études d'archéologie aussi. Alors, il y a quelque chose avec le passé avec cette terre de mémoire. Et tout d'un coup, ça la rattrape. Et tout d'un coup, elle se dit, mais j'ai un peu oublié ce bout-là de moi. Et est-ce qu'il faut que j'aille y rechercher quelque chose? Voilà, donc il y a aussi toute cette interrogation dans son parcours.
Il y a une quête à la fois du futur et du passé. C'est assez troublant parce que ça l'écarte véritablement, finalement, dans les questionnements qu'elle se pose. Et finalement, elle a aussi du mal à s'ouvrir à d'autres personnes pour expliquer ce qu'elle traverse et ce qu'elle vit.
Elle a du mal à vivre au présent, en fait. C'est un peu, c'est un peu ça qui va se passer pour elle, c'est cet apprentissage-là, c'est-à-dire d'habiter sa vie, elle, en tant qu'elle, et puis de pouvoir se dire qu'elle peut aussi avancer simplement. On se laissait un peu faire par la vie et non pas par les gens.
Et on se rend compte d'ailleurs au fur et à mesure aussi qu'elle réalise certaines choses autour d'elle qu'elle n'avait absolument pas vues. Elle a un peu des œillères.
Oui, elle a un problème d'ouverture au monde, et c'est vrai qu'elle est très centrée sur elle-même. Alors, elle le sait un peu, elle en joue un peu, mais voilà. Il se trouve que ça va aussi être ça, son ouverture, qui d'un coup, de pouvoir regarder un peu autour d'elle.
Le côté fantastique, c'est évidemment, comme vous le disiez, hein, c'est presque un voyage instant. C'est presque une téléportation, finalement, à la fois dans le temps et dans l'espace. Elle se retrouve dans une situation hypothétique, mais qui a tout d'une réalité, avec vraiment des transitions brutales, on va dire. Là aussi, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle comprenne ce qui lui arrive.
Alors, en fait, moi, j'ai essayé de travailler ces voyages comme... C'est-à-dire que quand elle tout d'un coup se retrouve au Liban, donc tout d'un coup dans un futur, il n'y a pas tellement d'adaptation à avoir, elle y est. C'est le retour qui est plus compliqué, c'est-à-dire de reprendre pied dans sa vie normale et de savoir où elle en est, qu'est-ce qu'elle a vu. Surtout qu'au début, elle ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas effectivement si son père est réveillé, si c'est à partir du moment où ce futur va débarquer en personne dans son présent et donc qu'il va y avoir un lien, que là, les choses vont commencer à se compliquer.
Scott Lynch, il y a un élément qu'on n'a pas dit au sujet de Locke et de ses petits camarades, qui va peut-être surprendre ceux qui ne connaîtraient pas encore la série des Sœurs Gentilhommes, c'est que Locke est prêtre. Ce qui peut surprendre pour un voleur. Enfin, quoi que, enfin, ça dépend. Enfin bon, j'ai pas son jugement là-dessus.
There are several cultures presented in Locke's world, at least at the beginning, and one of them is the Theron culture, of which Locke is mostly a member. It's heavily implied that he also has Bodrin heritage, the people of the north, as opposed to the people of the south. The Therons have 12 official gods, 12 acceptable gods governing various aspects of their society, and they have a 13th semi-official, semi-acceptable god, whose name is guarded, who is the god of thieves, brigands, pirates, and so forth, who is worshipped in secret with a lay, what we might call a lay priesthood. Well, that's not actually entirely accurate. With a more like a secret society within a secret society, a very small number of people who are chosen to carry forth this faith. And it is a faith. It is a very distinct faith. It's not simply it's not just a means of explaining. It's not just a means to look. Locke takes it seriously. I guess is what I'm trying to say. Locke believes his people, the thieves, he and his friends, they don't believe that the legitimate and respectable gods have much time for them. And that the only way they're going to get any help or salvation is to, go next door in the middle of the night and talk to the guy standing behind the hedge, the secret and sneaky god. I myself am not particularly religious, but I recognize that that's not true of the vast majority of people throughout human history. And I wanted my characters to have a very vivid sense of religion, regardless of my personal opinions.
Alors, en fait, il y a différentes cultures dans le monde de Locke. Donc, lui, alors, je suis désolée, j'en avais plus trop en français. Comment c'est les cultures? C'est Véran?
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, lui, à l'origine, il est Véran. Il est aussi partiellement Vadron, donc ça c'est plus les gens du Nord. Et donc dans sa culture à lui, il y a 12 dieux officiels et il y a un 13e dieu semi-officiel qui est le dieu des voleurs, des pirates, tout ça. Et donc en fait, il le vénère en secret. C'est une espèce de société secrète à l'intérieur d'une autre société secrète. Ils sont très peu nombreux à être au courant et à vénérer ce dieu. Mais ils ont quand même réellement la foi, c'est-à-dire que Locke, il croit vraiment en ce dieu des voleurs. En fait, les voleurs ont la nette impression que les 12 dieux officiels ont très peu de temps à leur accorder. Et du coup, bah, s'ils veulent que quelqu'un les aide et les sauve, il faut qu'ils s'adressent au dieu secret qui vit, dont personne n'a entendu parler quasiment. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse réellement à la religion, mais je pense que ce n'est pas le cas de la majorité des gens sur Terre. Et du coup, je voulais que mes héros aient une religion dans laquelle ils croyaient.
Alors, j'ai abordé le sujet parce que ils vont donc, pour ce groupe qui va se faire appeler les âmes gentilhommes, ils sont 5, dont le clan Mora, ils ont comme mentor un personnage qui s'appelle Chase, qui est lui aussi un prêtre, un escroc et un voleur, et qui justement va leur inculquer toute une série d'enseignements, alors qu'il ne va pas forcément leur dispenser lui-même, mais en tout cas, on va voir à travers tous les différents interludes que vous nous proposez, comment les différents personnages, en particulier Locke et Jean, se sont formés, et comment James, finalement, a ciblé quelles étaient leurs qualités et leurs faiblesses.
Chains, whether he realizes it or not, and we will eventually find out because we're going to see him again in book 3, if you read the series that far, and in book 5 as well. Chains is essentially assembling a family. He thinks he's assembling a well-oiled criminal machine, and to a certain extent he is, as much as anything Locke runs can be well-oiled. Chains has motives that he himself has not exactly confronted. And they are really not confronted in the first couple of books, and I don't want to spoil them. Chains has more of the surrogate father in him than he realizes. And Sabatha actually, one of the characters in the gang, levels a fairly significant criticism at him in the third book, in conversation with Locke. When she says that it was perhaps unkind and unwise to build a foundation of love and trust for a group of individuals who were embarking upon a life of allegedly merciless crime because it just set them up to be hurt when bad things began to happen to them, and that she didn't think that the old man in his kindness realized he was being unkind.
Alors effectivement, en fait, Chains, on découvrira un peu ses motivations par la suite dans le troisième livre, si vous l'avez déjà lu, et dans le cinquième. Mais Chains, on s'en rend compte, essaye de créer une espèce de famille. Alors dans sa tête, il crée plutôt une machine criminelle bien huilée, si on peut vraiment parler d'une machine bien huilée quand il y a Locke dedans, parce que voilà. Mais il a des motivations dont il n'est pas réellement conscient. Et en fait, il se comporte vraiment en père d'adoption pour ses enfants. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui, dans le troisième roman, le critique quand il discute avec Locke, en disant que ce n'était peut-être pas très gentil ni très sage d'apprendre une relation de confiance et d'amour à des jeunes que l'on destinait à une carrière criminelle sans merci, théoriquement, parce qu'au final, quand ça tourne mal, c'est là qu'ils seront blessés, parce qu'ils ont appris l'amour également. Et ce personnage ajoute que le vieil homme ne s'en était sans doute pas rendu compte qu'il ne leur rendait pas service.
J'abordage. On a parlé d'Ozia, on a parlé de Ren. Il y a un troisième personnage qui lui aussi va apprendre à se découvrir un petit peu et à se mettre en danger malgré lui, c'est Noi.
Ah oui, Noi. Troisième personnage, troisième Noi. Le personnage de Noi pour expliquer davantage comment fonctionne l'Arcane, puisque c'est un fils de famille aussi, la famille du Corinan, et qu'il est l'objet de complot d'intrigue, et qu'ils vont le faire se marier malgré lui à une autre fille de famille, et qu'il va se découvrir aussi un destin qui est très étrange par rapport à l'histoire, on découvrira au fur et à mesure. Ouais, donc, ça m'a permis de donner une vision au groupe de la société arcanienne.
Et aussi des motivations, alors là, c'est pas qu'on va pas rentrer trop dans l'intrigue, mais en tout cas de ce qui se trame au sommet d'Arcane, et qui a abouti finalement à la déchéance de Zia et à la destruction de sa famille.
Hein. Oui, bah, c'est un complot, on est dans un univers de complot aussi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la définition de prêtre de Scott, parce que ça m'explique maintenant pourquoi j'ai une sorte de méfiance vis-à-vis de l'Église catholique. Il voit qu'il y a un complot, et c'est son oncle lui dit il y a un complot contre le Drac. Il essaie de comprendre d'où vient ce complot. On va l'envoyer enquêter dans une. Enfin, son oncle va l'envoyer enquêter dans une autre famille qui s'appelle la famille du Serpent Violet, de l'Orval, en disant que c'est là le cœur du complot, finalement, c'est la famille qui a pu se mépriser de cette famille régnante. Et il va aller mener son enquête-là, et ça va se retourner contre lui, parce que là, c'est un piégé par cette famille, et il est obligé de se marier avec une des filles de la famille. Mais il y a une raison à cela, et c'est qu'on va découvrir par la suite. Quoi.
Voilà, on ne sait pas encore très bien comment s'agence le rôle de Noi.
Non, non plus.
je sais pas pourquoi j'ai été sûr qu'elle me répond ça.
Voilà, c'est aussi la trame qu'on voit, parce que derrière, il y a des ordres secrets dont la désolation fait partie. C'est un ordre secret qui vise et qui sont eux-mêmes manipulés, mais c'est ce qu'on découvre dans ce livre, il y a plusieurs couches de complot.
Ah, il faut créer effectivement des intrigues et des personnages parfois assez inquiétants, assez particuliers. Et je veux dire que ce qui est très intéressant dans ce premier tome, c'est qu'on ne sait absolument pas où on va en tant que lecteur. Quels sont les rôles des différents personnages. On les suit vraiment pas à pas et on est dans une certaine empathie avec eux, puisque on est un peu perdu. Hein.
c'est vrai que les éléments sont posés de façon tout à fait disparate, mais après c'est relier le tout qui est intéressant.
Donc, je vous préviens, si vous lisez le premier tome d'Arcane, vous allez être comme moi, chaque fois que vous allez croiser Pierre, vous allez lui dire, déjà, il arrive quand le tome 2.
je vais attendre un petit peu pour faire monter l'impression.
Ménès Marfil, le voyage initiatique de vos deux adolescents malgaches, il passe aussi par l'imaginaire. Alors, quand je parle de l'imaginaire, c'est plus au sens presque littéraire du terme. Ils vont croiser des personnages mythologiques, on a évoqué les Atlantes, mais on va voir que c'est pas les seuls, hein. Il y a quelques créatures assez surprenantes qui vont passer par là, et qui sont, pour le coup, vraiment des références à la mythologie. Ils vont croiser également des univers qui vont peut-être manipuler certains éléments, et je pense en particulier, il y a pas mal de clin d'œil à Lovecraft à l'intérieur. Vous vous adressez à un public adolescent à travers ce roman. Comment est-ce que justement vous faites passer ces références et comment est-ce qu'il y a ce travail autour des clés de lecture qu'un public, un jeune public ne possède pas forcément?
Je parle plutôt du principe même, c'est-à-dire que je ne parle pas de l'a priori qu'ils auraient déjà toutes ces clés, puisque c'est précisément un de mes objectifs, c'est de leur amener par le moment comme ça des clés, de manière à ce qu'au fil de leurs différentes lectures, ils vont pouvoir les repérer chez d'autres auteurs, effectivement, ils aient envie de... Parce que, bon, par l'adolescent, les Muriel est visible à partir de mon ami... à partir de 10 ans jusqu'à Ad vitam aeternam. Donc il n'y a pas de... Donc c'est un peu en basant à cela aussi que je glisse quelques clés. Bon, d'auteurs précisément qui pour moi ont compté dans ma propre formation. Cite Lovecraft, bon, je fais des clins d'œil autant à la littérature que à tout ce qui nous a également nourri, notamment le cinéma. Ça, c'est tout. Je fais ça à peu près dans tous mes bouquins. Il y a toujours des clés qui permettent de s'orienter vers un chemin et vers des lectures en particulier.
Parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage des personnages, finalement, il y a l'apprentissage aussi et la construction du lecteur à travers vos histoires.
Oui, forcément, parce que c'est ce qu'on a envie de leur faire découvrir, c'est. Pour moi, la construction du lecteur, il ne faut pas avoir non plus trop de prétention hein, par rapport à ça. Quoi. C'est quelque chose que je fais un peu malgré moi, parce que dans une ancienne vie, j'étais éducateur. Donc éducateur, c'est vrai que déjà, c'était une volonté d'apporter la construction même de la personnalité, mais plus en essayant. C'est un peu la maïotique de Socrate, c'est d'essayer de tirer de l'intérieur d'eux-mêmes plutôt que de leur apporter quelque chose comme ça qui viendrait se plaquer.
Ça nous amène dans des endroits, on a parlé d'univers très particulier avec Alex Côté et avec Pierre, mais finalement là aussi on va découvrir au fur et à mesure du voyage de vos deux personnages principaux, on va découvrir un univers à la fois très riche, très foisonnant, assez inquiétant par moment.
Oui, inquiétant, mais parce que le point de départ est inquiétant, notre planète elle va très mal. Bon, déjà, on ne part pas sur quelque chose de très réjouissant. Alors, bon, j'essaie de le sauver en étant à la fois d'humour, des choses qui sont un peu plus légères à l'intérieur. Mais effectivement, on va se rendre compte que les fameuses attentes, tout à l'heure je parlais des ères successives, elles sont successives, mais la tradition nous apprend qu'on ne change pas brutalement d'une ère sur une autre. Il y a une espèce de passation, et on apprend précisément que ce qui s'est mal passé, c'est la passation de la planète entre les lémures et les atomes. Et on découvre que pourquoi les lémures font aujourd'hui appel aux humains, c'est parce qu'eux-mêmes, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils n'ont plus d'enfants. Et tous leurs enfants ont été, en quelque sorte, dévitalisés par une espèce de dictateur qui s'appelle Parokalos, mais quand on lit dans l'histoire, tout le monde fait très vite le parallèle avec Adolf Hitler et les phénomènes d'extermination. Donc eux, c'est leurs enfants qui ont été exterminés, et tout l'objectif de leur initiation, pourquoi on va les conduire vers Atlantia, c'est d'essayer de ressusciter précisément cette enveloppe qui n'était pas que charnelle, mais spirituelle. Ça va être leur objectif. Et c'est là où on prend toujours un peu plaisir à casser les codes dans tous ces trucs, évidemment. Il s'agit toujours des héros qui doivent sauver une planète. Mais j'insiste toujours que ça n'existe pas. Ce héros qui peut sauver la planète, il n'existe pas s'il doit être à mes yeux, hein, j'engage pas la littérature, s'il doit être un héros tenté de pouvoir, etc., qui lui permettrait d'arriver à ça. Moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut qu'il y ait une immense chaîne de solidarité qui se crée. Donc là, en l'occurrence, on va découvrir que nos jeunes petits humains vont s'associer avec des lémures et des jeunes atlantes qui eux-mêmes sont en rébellion contre leur dictateur. Bon. Et c'est quelle aperçoit leur dimension, c'est de cette solidarité, de cette fraternité que pouvait être, je ne crois pas un super-héros, mais une espèce de peuple ou héros.
Oui, je revois Salomé dans Futur Oracle, on se retrouve donc confronté à un possible futur, à deux possibles futurs, même au pluriel, sachant aussi que les décisions qu'elle prend dans le présent, dans cette vie dont on peut penser qu'elle est sa véritable existence, peuvent avoir des conséquences sur justement ses futurs à venir. Il y a ce jeu sur, vous parlez de paradoxe temporel d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qui vous a intéressé de jouer avec ça?
Alors ça m'a beaucoup amusé de jouer avec ça, c'est-à-dire de sans arrêt, elle fait, donc à partir d'un certain endroit dans le roman, elle va se rendre compte, en fait, elle est tombée amoureuse d'un garçon au Liban, qui est un garçon qu'elle va donc croiser en France et qui s'apprête à y partir. Et dans les futurs qu'elle voit, tout d'un coup, elle va assister à sa mort. Et elle se dit, il faut que je fasse quelque chose maintenant pour l'empêcher de partir. Voilà. Et à partir de là, elle va avoir des choix à faire et elle va devoir se dire, qu'est-ce que je fais maintenant dans mon présent qui va changer le futur. Elle va essayer des choses, mais elle va réessayer le logiciel qui va lui montrer qu'elle se trompe, etc. Donc il va y avoir de plus en plus d'aller-retour entre le présent et des futurs différents. Dans lequel elle va, au bout d'un moment, enfin, voilà, moi ce que j'avais envie c'était aussi de perdre le lecteur et on ne sait plus très bien, et elle ne sait plus très bien qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas encore passé, qu'est-ce qui fait partie de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle n'a pas vécu, enfin voilà, et même le présent devient assez incertain. Donc, et moi en fait, pour explorer ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai ancré cette histoire vraiment dans notre réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est. On est vraiment dans notre quotidien, dans notre société actuelle, et avec ces allers-retours temporels qui, voilà, on se perd.
Il faut que justement, voilà, on a ces repères, qui pour le coup sont des repères quotidiens d'une certaine manière, jusque parfois certains qui sont dramatiques, sont dans le Liban et qu'on sait que c'est un pays où la situation est depuis longtemps malheureusement assez compliquée et assez violente. Et justement, c'est aussi avec ces repères à la conjo, c'est-à-dire que on est en permanence entre l'impression un peu de confort qu'il peut y avoir dans la vie de Salomé et puis ce futur incertain dans tous les sens du terme.
Voilà, puis c'était aussi une façon de justement la faire aussi sortir de son cocon, c'est-à-dire que dans ce futur dont on ne sait pas s'il existe ou pas, voilà, la réalité de ces événements n'est pas très claire, mais en tout cas, ça va la confronter à une vie et à une violence de vie. Qui n'est pas la sienne. Et c'est aussi ce rapport-là que j'avais envie de mettre en place.
Scott Lynch, une dernière question à vous, parce que quand je voulais qu'on parle de ça, parce que par rapport au thème de la table ronde, c'est vraiment important. Locke Lamora, c'est un personnage flamboyant, d'une incroyable arrogance, qui a une confiance en lui totalement exacerbée. Or, lorsqu'on le découvre et à travers le premier volume de la série, il va tomber de haut finalement. Son apprentissage, sa quête initiatique, elle va passer par les drames qui vont le frapper et par la violence qui va se déchaîner et dont il va être une des victimes, on va dire.
It's one thing to be full of potential. I mean, many people are full of potential. Many people are brilliant. Many people are intrinsically capable of great things, but they never apply themselves, or they never have the opportunity to apply themselves, or they are never forced at knife point to apply themselves. And it's essential for Locke's journey that he be put through a series of gruesome and systematic tortures. That's maybe a slight exaggeration. Your mileage may vary depending on how you feel about the books. It is essential to the revelation of his character. The challenges he faces are the crucible in which all the easy vestiges of his presumptions and his arrogance are burned away. And I wanted to experiment with and discover what was really under there when every aspect of him was put to the test, and will continue to be put to the test in the books to come. Locke will be tested physically mentally and emotionally. He's also going to be tested in his growth and maturity as a human being, since he's going to continue to age into the series and take on new responsibilities. And it truly is, I hope, going to be a story about the process of growing up, the process of becoming responsible for things other than oneself and one's monumental ego.
Alors, je pense qu'en fait, on est nombreux à avoir du potentiel. On est capable de faire beaucoup de choses, seulement on n'a pas toujours l'opportunité de se servir de nos capacités. Il est rare qu'on se retrouve forcé de s'en servir avec un couteau sous la gorge. Alors que pour Locke, justement, son voyage vraiment va le torturer. Alors, c'est peut-être un peu trop fort comme terme, mais il va beaucoup souffrir. Mais
il a une certaine endurance quand même.
Mais techniquement, c'était essentiel pour moi de me servir justement de ce qu'il allait endurer comme d'un creuset pour voir justement ces vestiges d'arrogance et d'assurance partir en flammes. C'est vraiment, j'expérimente pour voir ce qu'il y a en dessous de toutes ces apparences. Je l'ai testé déjà dans ces trois romans, je le testerai encore, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Je vais également tester sa maturité, parce qu'il va continuer de grandir à travers les séries. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de le voir grandir et de le voir prendre des responsabilités, pas seulement pour soi et son ego gigantesque.
Quel avantage vos personnages, que ce soit particulièrement Ozzy et Irene, il y a aussi, au travers de cette première partie de leur voyage, une prise de conscience, pas seulement de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils sont capables de faire aussi.
Oui, de la découverte de leur rôle dans l'aventure, dans leur monde. C'est un, ce que je disais tout à l'heure, c'est un voyage vers eux-mêmes, vers la connaissance de soi-même. Donc, on suit une aventure extérieure, mais avant tout, on suit une aventure intérieure. Ce qui est d'ailleurs l'écriture par elle-même. Je pense que pour moi, l'écriture, je la conçois comme une découverte de moi-même, finalement, par l'écriture. L'écriture, c'est elle qui me guide vers des zones de moi que je ne connais pas. Les personnages font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont dans des labyrinthes, parce que t'as des labyrinthes dans Arcane. J'ai l'impression que c'est aussi un voyage à l'intérieur des labyrinthes intimes. Et c'est la labyrinthe intime qui va nous amener quelque part vers nous-mêmes, quoi. Donc voilà, c'est, les deux sont intimement liés, quoi.
Et on verra effectivement dans la suite comment tout cela va encore évoluer, changer.
C'est ça qui permet la fantaisie, c'est pour ça que je suis content d'être pétonné dans une univers fantasy, parce que c'est, il s'agit vraiment du cheminement personnel de chaque personnage, où rien n'est figé. Enfin, c'est la définition du héros de Joseph Campbell, le héros du visage, où il dit que pour qu'un héros se lève, il faut qu'il soit jeune et relativement innocent, le niais de des contes du Graal, hein, ce qui est personnel, je crois. C'est-à-dire l'idiot, celui qu'on prend pour idiot, mais en fait, il n'a pas d'a priori. Donc lui, il peut se mettre en route, parce que quand on est vieux, comme moi, et assez dans la vie, eh bien, on a beaucoup plus de mal à se mettre en route, parce qu'on est figé dans nos certitudes. Mais l'autre, celui qui n'a pas de certitude et qui remet tout en cause en permanence, qui se lève pour essayer de changer les choses, qui perçoit une disharmonie dans le monde, que les circonstances ont poussé à bouger et à évoluer, à avoir un chemin initiatique pour à la fois ramener l'harmonie en eux-mêmes et l'harmonie autour d'eux. Donc c'est une réharmonisation du monde, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'univers de la fantaisie. Qu'on peut aussi trouver dans l'espèce opéra, par ailleurs, des différences, mais je crois qu'il y a une certitude qui sont un peu les mêmes, quoi.
Mais là, ça, je pense que ça. Vous êtes un peu sur la même ligne que Pierre, sur cet aspect-là, sur. À travers l'évolution de vos personnages, on retrouve aussi un peu le même processus, finalement.
Oui, mais parce que c'est pas la même merde avec Pierre, c'est vrai que pour nous, il y a non pas un objectif final, parce que je pense que le chemin est beaucoup plus important que le but qu'on pourrait se donner, mais qui doit conduire à une spiritualité qui doit primer surtout, notamment sur ce monde matériel, sur la matière.
C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, la fantaisie, ce que tu coupes, mais c'est l'idée que ça inverse le couple esprit-matière. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes des enfants de la matière, de la matière du hasard, ou bien est-ce que nous avons une part dans cette évolution du monde, dans l'évolution matérielle? C'est ça qui est intéressant. La fantaisie renverse le processus, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui crée la matière, finalement.
Oui, Je crois que c'est ce qu'on a découvert, c'est, et ce qu'on est en train de découvrir précisément dans notre époque très moderne, c'est la puissance de l'esprit sur la matière. On le voit aujourd'hui même dans des domaines comme la physique, notamment, où on s'est rendu compte que l'observateur agissait lui-même sur l'expérience. Le fait que nous observions par exemple des particules de lumière vont faire qu'elles vont prendre un chemin plutôt que l'autre qui ne serait pas le même si nous n'étions pas là pour les observer. Et ça, bon, évidemment, ça commence à poser un problème, enfin un problème, j'espère avoir le résultat, mais les gens n'ont pas encore assez confiance dans leur véritable pouvoir. Bon, après, qui dépend de ce qu'on veut faire de ce pouvoir.
C'est un des enjeux éloignants. Hein.
Donc, vendre des garde-fous quand même.
Mais revoir, même question, même si on est dans quelque chose qui est du domaine un peu plus personnel, un peu plus intime, un peu plus quotidien également, mais voilà, il y a quand même aussi un personnage qui est celui de Salomé, mais pas seulement d'ailleurs, parce que les personnages secondaires sont aussi une certaine croisée des chemins, hein, mais aussi on va avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Évidemment, ça ne met pas en jeu forcément le sort du monde, mais ça met quand même en jeu le sort de leur existence future et leur construction personnelle.
C'est ça. Enfin, moi, j'avais très envie de ce groupe d'amis et de cette mini-famille que ça crée. C'est-à-dire que c'est aussi un âge où, effectivement, on se recule un peu de ses parents et où les amis prennent le relais. Et pour Salomé, il y a son ex-petite amie qui a du mal à la lâcher, qui vient squatter chez elle, dont elle ne sait pas trop quoi faire. Il y a sa copine et son autre amie, dont elle ne voyait pas qu'il y avait quelque chose qui se passait entre eux qu'elle va découvrir. Bon, il y a des petites choses comme ça qui se passent à côté. Et c'est vrai que le fait qu'elle prenne son envol va leur donner aussi à chacun un autre chemin.
Et finalement, chacun façonne son futur, et il n'y a pas besoin de logiciel pour ça.
Voilà.
C'est un peu la conclusion de tout ça. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Hélène pour les traductions. Vous pouvez évidemment retrouver les auteurs et continuer les discussions sous la bulle du livre, découvrir les univers de Scott Lynch, l'arrivée, puisque donc, c'est vraiment une arrivée officielle.
Coming out.
J'entends.
Je suis pas un auteur de science-fiction, je fais de la fantasy depuis toujours. Mais je ne savais pas. J'avais honte, mais non.
De Pierre Bordage avec Arcane, et franchement, allez-y, parce que c'est un très bon roman. Médias Marfil pour vous emmener, vous l'aurez compris, à la fois Madagascar et même encore un peu plus loin. Et puis, nous revoir avec cette question, ce questionnement sur le futur et sur la manière de l'envisager et de le construire. Voilà, merci en tout cas d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis bon courage pour ressortir, parce que du côté météo, ça ne s'arrange toujours pas. Donc,